trip à Vegas.
Wow! Oui, c'est moi!
New York, San Francisco pour voir du baseball, du hockey, puis qui vous envoie un peu partout pour assister aux shows de vos bandes préférées.
Et quelqu'un à avoir quelques années de radio derrière la cravate, moi, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose d'aussi démentiel.
Puis qui organise même un show privé dans notre building pour voir Papa Roach. Pour tout ce qui se passe de gros, il y a Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir.
Allez, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée, un excellent lundi. On va passer certainement un bon lundi soir, puisqu'on débute la soirée avec Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bonsoir!
Comment allez-vous, M. Marceau?
Ça va très bien.
Cette semaine?
Un week-end très, très reposant. Ça a été... La température était adéquate pour se reposer, donc on était un peu à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur, puis un peu de temps avec les enfants, puis beaucoup de temps dans les arénas. Vous avez connu ça pendant combien d'années, les arénas, Maître Bellemare?
25 ans.
25 ans, puis là, avez-vous des petits-enfants qui jouent au hockey?
Pas encore, non. Bon. Ben, j'ai une petite fille et un petit gars qui ont fait du hockey pendant 2 saisons, mais la mère était pas mal exténuée, je crois. Elle a compris que c'était plus facile d'amener une paire de sneakers et un ballon dans le gymnase 12 mois par année. Et le hockey, ça a fait son temps, mais j'aurais souhaité qu'il continue, mais je comprends que c'est une charge importante pour les parents. Il faut que tu aimes beaucoup le hockey, d'un. Faut que tu sois très indulgent par rapport aux autres parents qui crient tout le temps.
Ouais.
Et il faut que tu sois... Faut que tu aies le temps d'aller dans les arénas. Faut que tu aies les sous aussi pour payer. Surtout si tu es un goaler. Parce que moi, j'ai eu un goaler, je vais te dire une affaire. Juste les patins, là, ça, c'était quasiment le prix de l'équipement d'un joueur régulier.
Oui, c'est beaucoup d'investissement de temps. Moi, je vais être très honnête avec vous. Là. Des fois, il y a des gens qui me reprochent d'être trop honnête sur ce sujet-là parce qu'ils sont un peu gênés. Ils disent « Ah, ben pourquoi toi tu dis ça? » Puis moi, je me permets pas de dire ça. Ça me tente pas tout le temps de me rendre à l'hôpital, pas à l'hôpital, mais à l'aréna, Maître Bellemare. Moi, j'ai les horaires d'avance. Là. En début de semaine, je sais combien de temps je vais passer à peu près dans les arénas. Puis je vais vous dire, au départ, ça ne me stimule pas pantoute, mais une fois que je suis rendu sur place, une fois que je suis assis dans l'aréna puis je vois mes gars évoluer, là j'ai du plaisir. Mais oui, ça prend du temps. Maître Bellemare, avant les games, il nous demande d'être une heure avant la game à l'aréna, Maître Bellemare.
Oui.
Donc, c'est une heure où je dois partir d'avance nécessairement. Fait que mettons qu'on se donne une demi-heure de route, une heure avant la game, plus une heure, à peu près une heure la game, plus la petite demi-heure après pour se changer. Puis après ça, retourner à la maison, c'est 4 heures et demie de temps, là, Maître Bellemare.
Oui, c'est effectivement du temps. Puis là, ça dépend de l'endroit, parce que si tu joues à Lévis ou à Québec, c'est encore surtout sur un jour de fin de semaine, ça va. Mais si tu joues un mardi soir à 7 heures, à Montmagny, c'est une autre paire de manches.
Ouais.
Non, ça prend un horaire qui va te permettre de faire tout ça. Puis c'est effectivement, moi je vois que le hockey est en déclin au Québec. Là. On le voit juste au repêchage en Ligue nationale, les joueurs du junior majeur, le double lettre dans le midget, dans le bantam. Il y a de moins en moins de joueurs. Il y a une forme de désaffectation. Puis je peux te dire que la violence au hockey, ça aide pas. Les questions d'agression sexuelle qu'on voit un peu partout, les parents sont plutôt portés à pas trop s'embarquer. Fait que c'est un drame national. Moi, je trouve que si on parle de l'identité, la langue, les signes religieux, notre identité au Québec, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'identité rattachée à un sport qui nous a vu grandir, qui a vu grandir nos parents, Maurice Richard, Guy Lafleur, Jean Béliveau. Notre histoire, les Québécois, c'est beaucoup le hockey. Et tout ça s'est évacué. On va voir jouer des Russes puis des Suédois, puis on applaudit à tout rond, puis ils ne parlent même pas notre langue. Et puis c'est le problème. La question s'est déplacée, mais moi, je trouve que c'est un drame national pour le Québec. Là, puis c'est un deuil qu'on doit faire de cette période glorieuse. On a beau accrocher tous les chandails qu'on voudra au plafond du Centre Bell, ça ne remplace pas le fait que nos arénas sont désertés.
Mais je le fais pour mes enfants. Puis quand je suis sur place, je suis très heureux de les voir évoluer. Puis je vois le sentiment d'appartenance à l'équipe là, qui s'installe en début d'année. Je vois mes gars être extrêmement motivés à gagner une partie. Je vois mes gars être déçus quand ils perdent. Ça fait partie de la vie, le gagner et perdre. Puis de voir à quel point ils sont capables de se remettre d'une défaite pour de dire « Regarde, papa, je vais aller faire mon jogging cette semaine. Je trouvais que j'avais pas assez de souffle cette semaine. » Puis là, ben ils font le tour du lac. Ils font le tour du lac chez leur mère. Ils m'appellent pour me dire qu'ils ont fait le tour du lac. C'est le fun de les voir évoluer, ces petits humains-là. Puis, bon, moi, c'est le hockey. Puis oui, c'est de l'investissement de temps. Là. Vous, vous avez dit, Yann, des fois, ils ne jouent pas dans les mêmes arénas. Vous avez absolument raison. Moi, des fois, là, mes fins de semaine, là, je pars le matin. Le soleil n'est pratiquement pas encore levé. Puis après ça, j'arrive le soir tard. Puis le soleil est couché depuis un bout. Je reste à Québec. Mon gars, ben, mes gars sont en Beauce la majorité du temps, donc vous comprendrez qu'ils jouent avec les équipes de Beauce. Fait qu'on se promène un peu partout en Beauce, mais oui, des fois, j'ai un match comme à Saint-Georges-de-Beauce, puis après ça, j'en ai un autre à Montmagny, quelques heures plus tard. Fait qu'on se promène toute la fin de semaine. Là, je veux dire, mais j'ai du plaisir quand je suis dans l'aréna. Il n'y a pas de doute.
Ah, tu peux faire quelque chose en attendant que la game commence, puis après. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petites longueurs. Tu sais, quand tu as fait le tour du web 3-4 fois, là, à un moment donné, c'est un peu long. Mais ils sont dans quel calibre, tes fils, là, cette année?
Là, j'en ai un qui est à Tombe, puis j'en ai un qui est Pee-wee.
OK. Dans quel niveau?
Ben là, ils sont en train de faire les camps d'entraînement. Là. Mais normalement, c'est tu vois, les deux ont fait le B l'an passé. Fait que ça devrait être à peu près la même affaire cette année.
J'espère être dans le A cette année, j'imagine.
Ouais, je sais que mon plus vieux, ce qu'il veut, c'est faire le A, bien entendu. Mais on est là-dedans. Là. Fait que on va voir ce que ça va donner dans quelques semaines. Hey, Maître Bellemare, j'ai plein de questions à vous poser aujourd'hui. C'est une grosse émission en ce lundi. La semaine dernière, vous avez certainement vu Bruno Marchand qui a essayé de se dépêtrer là, avec son histoire d'augmentation des taxes sur l'immatriculation. Est-ce qu'on est en train d'assister à un suicide politique? Parce qu'on a vu le sondage léger il y a de ça quelques jours où on s'aperçoit que la majorité des citoyens de Québec ne veulent pas que Bruno Marchand soit encore en place aux prochaines élections. Et là, il nous arrive avec des taxes et des taxes en empiffenaire. On est en train de voir un gars qui est un peu résigné en se disant « Ben là, c'est mon dernier mandat, puis je vais faire passer mon agenda politique avant de sacrer mon camp parce qu'ils vont me mettre dehors. »
Mais je pense pas qu'il pense comme ça. Je pense qu'il pense, lui, qu'en imposant sa taxe à 90$, maintenant, il va être capable de se rendre quand même jusqu'à l'élection. Écoute, Yannick, en politique, là, tout tourne autour de l'alternative. Tu sais, au fédéral, Trudeau et Moribond, on a une alternative, c'est Poilievre. Au Québec, il y a la CAQ, ça ne va pas très bien. Il y a une alternative, c'est le PQ. On verra peut-être d'autres partis qui vont se redresser d'ici la prochaine élection, 2026, je crois, pour le Québec. Mais, tu sais, il y a des alternatives. Quand je regarde Montréal, il n'y a pas d'alternative à Mme Plante. Alors, ici à Québec, il n'y a pas d'alternative encore. Il y a Sam Ahmad qui ne s'est pas encore annoncé. Est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il ne viendra pas? On ne sait pas. Alors, écoute, il y a des élections par défaut aussi, ou il y a des élections à un moment donné parce que tu as un candidat qui arrive de nulle part, qui n'est pas connu, puis qui ne passe pas plus que M. Marchand. Mais, écoute, c'est certain que M. Marchand, au niveau de la cohérence de ses politiques, là, il y a des problèmes. Là, l'augmentation de la taxe, d'une part, mais il nous annonce ça quelques semaines avant de quitter pour l'Europe. Claude Villeneuve le chef d'opposition a dit, bon, ben il devrait annuler son voyage en Europe. Je pense que Villeneuve a raison. Il annonce une taxe, puis en même temps, il s'en va en Europe. Ça fait drôle. Il y a toujours comme une espèce de médaille à deux faces. Il annonce ça pour le RTC pour favoriser le transport collectif, fort bien. Mais en même temps, on sait qu'au RTC, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes budgétaires, il y a des gros salaires qui se payent là-bas. Il y a beaucoup de fonctionnaires au RTC. On peut se poser la question de savoir s'il n'y en a pas trop. L'histoire des tasses l'année passée, là, 34 000 $, là, des affaires dans le même. Le monde est écœuré de payer pour des surplus puis des caprices. Alors, il y a un ménage à faire au RTC. Si Marchand disait, ben oui, j'augmente la taxe, mais en même temps, je vous garantis qu'on va avoir une structure plus efficiente, qu'on va faire un ménage, on va restructurer le RTC, on va diminuer les postes, il y a des remplacements qui ne se feront pas. On va arrêter de faire du temps partiel, etc. Peut-être que ça pourrait jouer. Mais à chaque fois que le RTC a fait la manchette à travers des coûts exorbitants comme les tasses et les salaires, Monsieur Marchand a dit, oui, c'est correct, je suis d'accord avec ça. Puis vous savez, le travail, c'est pas juste ça qui compte. Il faut s'amuser, il faut avoir du plaisir, il faut avoir un milieu de travail agréable. Donc, c'est normal que ça coûte ça. Ça coûte 3 cents par contribuable. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si ces dépenses-là sont opportunes. Puis quand tu payes, puis tu vois qu'il y a des abus de l'autre côté, ben t'es pas heureux de payer. Puis c'est une partie de la frustration des citoyens. C'est un des problèmes auxquels M. Marchand ne s'attarde pas, c'est le dégraissage de la machine.
Geneviève Guilbeault, il y a de ça quelques mois, a commandé une étude concernant le RTC. On voulait un audit de performance. Donc, on voulait analyser les performances du RTC à l'interne, comment ça fonctionnait la gestion versus comment on utilisait l'argent. On n'a toujours pas reçu les résultats de cet audit de performance-là. Ce qu'on sait, c'est que cette année, le RTC s'en va vers un déficit de 40 millions de dollars. Et avec la nouvelle taxe Marchand, sur l'immatriculation de 90 $ maintenant, elle était 30 avant, donc augmentation de 60 $. Ben, on va aller chercher un peu moins de 20 millions de dollars. Donc, il va y avoir encore un déficit à combler l'an prochain, là. Et la coalition Avenir Québec semble être un peu plus près de ses cennes qu'elle l'était au départ. On est dans les derniers milles, là, pour ce qui est des élections provinciales. On commence à se préparer pour les prochaines élections provinciales. On voit que la coalition Avenir Québec n'est pas en avance dans les sondages chez le Parti québécois. Donc là, la coalition Avenir Québec est en train de freiner là, pour ce qui est des dépenses, pour réussir à nous donner des bonnes nouvelles à sa troisième année de mandat. Donc l'audit de performance n'est pas sorti. On sait que le RTC se doit les fesses avec 40 millions de dollars de déficit. Puis Marchand arrive en disant... Bon, ben nous, ce qu'on veut, c'est de nouvelles structures. On veut desservir un peu plus la couronne nord. Donc, on va aller chercher 60 $ de plus dans les poches des automobilistes. C'est parce qu'à un moment donné, c'est un non-sens. Puis là, ce qui arrive, quand on regarde le sondage léger, c'est qu'il y a un gars qui ne s'est pas encore présenté à la mairie, qu'on présume qu'un jour, il se présentera à la mairie, qui, lui, va augmenter dans les sondages, alors qu'il n'a pas dit qu'il allait se présenter. Et on a un Marchand qui, lui... Continue de pousser pour avoir de plus en plus de revenus pour la ville de Québec. C'est le cas avec les taxes, mais je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je pense que c'est jeudi matin dernier que cette nouvelle-là est sortie. La communauté métropolitaine de Québec veut imposer une contribution de 3 cents du litre d'essence à Québec. Un peu comme ça se fait à Montréal, là. Il y a un 3 cents là, à Montréal
oui.
sur chaque litre d'essence. Bien là, c'est la communauté métropolitaine de Québec qui veut faire ça, et avec l'Union des municipalités. Puis c'est Bruno Marchand qui préside cette histoire-là. Et mercredi après-midi, donc ça, c'est sorti jeudi, cette nouvelle-là. Mercredi après-midi, le Conseil des ministres a rejeté la possibilité récemment inscrite dans un document d'analyse de la communauté métropolitaine de Québec d'augmenter justement, de mettre une taxe sur chaque litre d'essence à Québec. Donc Bruno Marchand, même s'il a nié par la suite en disant « non, c'était juste des pourparlers », Bruno Marchand s'essaye encore à aller chercher des taxes supplémentaires et là, ce serait sur chaque litres d'essence qu'on achète à Québec.
Oui, c'est ça. Ben c'est... Écoute.
J'ai l'impression qu'il a abandonné. J'ai l'impression qu'il a abandonné, puis il se dit, là, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est passer mon agenda, faire mes petits voyages, puis après ça, je vais embarquer dans un autre organisme sans but lucratif à la gestion de cet organisme-là avec un salaire de 100 000, 200 000, 300 000 $ comme c'était le cas chez Centraide, comme c'était le cas au Centre de prévention du suicide. D'après moi, il est déjà parti dans sa tête, mais il va juste essayer de faire passer ses trucs avant de partir.
Ouais, ce serait la première fois qu'un maire serait battu en cours de mandat depuis une soixantaine d'années, je crois. Ouais. C'est quand même... Écoute, le maire Lamontagne, je pense, a fait 12 ans. Le maire Pelletier a fait 12 ans. Le maire Lallier, je pense qu'il a fait 12 ans aussi. Je pense que Labombe a fait 16. Il reste que les mandats des maires là, depuis les années 60 ont tous été supérieurs à 10 ans. Ils sont partis de leur plein gré, ils n'ont jamais été battus. Alors, ça serait la première fois que ça arriverait, mais il faut quand même reconnaître que la CAQ, en transférant les pouvoirs de taxation aux villes, a fait une bonne affaire, parce qu'on se comprend qu'en politique, les taxes, là, c'est à peu près ce qu'il y a de plus mortel. De plus en plus, les gens sont égorgés. Et les gens acceptent très mal de payer davantage, que ce soit à n'importe quel palier de gouvernement, le fédéral, le provincial ou le municipal. Et là, en envoyant la patate dans le champ des villes, comme M. Marchand, en disant, vous allez augmenter les immatriculations si vous voulez plus de revenus pour le transport collectif, mais la CAQ a une idée de génie. Puis le ministre Julien, qui est responsable de la région de Québec, Jonathan Julien, en a rajouté la semaine dernière en disant, ben, ça va être à M. Marchand de justifier sa hausse. Comprends-tu? Il a comme rivé le clou encore plus en disant, ben, Marchand, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as augmenté la taxe? Alors, moi, je pense que c'est sûr que la CAQ n'est pas ouverte à ce que M. Marchand reste en poste. Ils vont probablement travailler fort pour que ce soit quelqu'un d'autre qui remplace.
La coule
Sam
semble
Hamad n'a
engrenée.
aucun intérêt actuellement, aucun avantage à annoncer sa candidature parce que Marchand descend tout seul.
Puis lui, il monte.
Alors, c'est comme Poilievre qui voit aller Trudeau vers le bas. On le voit depuis une couple de semaines. Là, il y a le vote de confiance, là, mais il reste que par rapport à Trudeau, là, le NPD chicane avec les libéraux. Fait que Poilievre, il regarde aller ça, puis il est mort de rire. Alors, lui, en autant que les coups viennent de n'importe qui, ça fait son affaire parce que ce qui est important, c'est que la personne en poste perdre des plumes au niveau des sondages. Je pense qu'on assiste à peu près au même phénomène au niveau de la ville, mais comme je te dis, c'est au niveau de l'alternative que ça va se jouer. On a beau crier, puis chialer, puis analyser tous les sondages possibles pour voir une baisse de popularité. Madame Plante à Montréal, c'est la même affaire, là. Tu sais qu'elle a décidé de bloquer les réseaux sociaux, là. Elle a décidé de bloquer les commentaires des citoyens qui sont négatifs par rapport à son administration. Ça veut tout dire. Mais à Montréal, c'est un peu la même affaire. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va se lever et qui va dire, moi, je veux faire du logement, puis je veux avoir des routes qui fonctionnent, puis je veux avoir des taxes qui sont raisonnables, puis est-ce qu'on va avoir ça à Montréal? Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il n'y a personne qui s'affiche. Mais
Mais
c'est un peu tôt quand même, il faut le reconnaître. Puis quand tu arrives trop tôt en politique, je le sais, moi, parce que je l'ai vécu en 2005, je m'étais présenté en janvier pour une élection au mois de novembre, puis ça a parti bien haut, mais à un moment donné, les journalistes, les médias, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de te rentrer dedans parce que tu es le seul candidat annoncé. Et à ce moment-là, ils finissent par te discréditer considérablement, puis ça se peut qu'à la ligne d'arrivée, tu aies perdu des plumes pas mal. Alors, c'est pas important de se présenter trop tôt. Normalement, les candidatures arrivent comme au début de l'été. Faut s'attendre à ce que ce soit comme ça en 2025 pour la Ville de Québec. Début de l'été, passe l'été d'un barbecue, puis d'un souper spaghetti, puis à l'automne, c'est le dernier droit, septembre-octobre, puis l'élection a lieu en novembre. Je m'attendrais à ce que les candidats à la prochaine élection municipale soient annoncés l'an prochain, là, au début de l'été, quand les petits oiseaux sortent.
qui vivra verra, mais je suis d'accord avec vous. T'sais, ce que la Coalition Avenir Québec a fait avec les maires, c'est un cadeau de grec, là. On leur a dit, bon, ben, c'est beau, on vous donne la permission de toucher aux taxes sur l'immatriculation, puis cet argent-là ira à votre ville ou encore à votre région. Je trouve ça très intelligent de la part de la Coalition Avenir Québec. Jonathan Julien a donné un baiser de la mort pratiquement à Bruno Marchand en disant, ben là, ce qu'on voit actuellement pour ce qui est du RTC, c'est quand une entreprise privée va mal, là, j'essaie de résumer parce que c'est arrivé la semaine passée, puis je ne l'ai pas devant moi, mais quand une entreprise va mal, on regarde la structure à l'interne, on fait le ménage à l'intérieur de cette structure-là, puis après ça, on peut augmenter les prix. Donc, on considère que Bruno Marchand a fait le ménage à l'interne avant de demander de l'argent supplémentaire aux citoyens. C'était un peu une boutade de la part de Jonathan Julien en disant ce que Bruno Marchand là fait, c'est il fait les affaires à l'envers. C'est qu'avant même l'audit de performance du RTC, avant même d'avoir les résultats, il demande de l'argent aux citoyens. Donc, sans savoir s'il se passe quelque chose de bien ou de mal à l'intérieur du RTC. Fait que c'est un petit baiser de la mort de Jonathan Julien la semaine dernière. Quand vous étiez au cabinet des ministres, est-ce que vous entendiez régulièrement la capacité de payer des Québécois, la capacité de payer des Québécois? Est-ce que c'est pris en compte, ça? Parce qu'on en parle souvent là, quand on entend des économistes de renom qui sont pas biaisés, mentionnent très souvent qu'au Canada, c'est les Québécois qui sont les plus taxés. Et précisément, si vous êtes dans la ville de Québec, vous êtes les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. Est-ce que ça, vous l'entendiez au cabinet des ministres lorsque vous étiez ministre de la Justice?
Oui, mais c'est surtout les programmes puis les nouvelles dépenses qui étaient considérées. Je dois te dire que Je me souviens, à un moment donné, au Conseil des ministres, en 2003, il y avait été question du financement des cinémas. Et c'est Aline Beauchamp qui était ministre des Affaires culturelles et qui est arrivée avec une politique du cinéma en disant on va payer pour les producteurs de cinéma pour les films à travers la SODEC, etc. Alors, quand tu vas voir un film québécois, tu vas voir Les Belles-Sœurs, exemple, tu vas voir à la fin, il y a un générique, puis on dit contribution de la SODEC, contribution du ministère des Affaires culturelles, gouvernement du Québec qui contribue. Il y a très peu de films commerciaux qui ne sont pas financés par l'État québécois. Et là, il y avait de l'argent, puis de l'argent, puis ça coûtait tant, puis on annonce ça, puis on va donner tant au milieu culturel pour le cinéma, puis tout ça. Puis moi, j'avais posé une question au Conseil des ministres, j'avais dit, est-ce qu'on a un mécanisme de collecte de revenus aussi? Parce que là, on a un mécanisme de dépenses, mais est-ce qu'on a prévu des revenus ou un remboursement de la subvention? Exemple. Un film comme Le déclin de l'Empire américain qui a connu un succès bœuf au Québec. Les Belles-Sœurs cet été, c'est un succès bœuf. C'est sûr qu'il y a des surplus. Alors, si le gouvernement met 10 millions dans Les Belles-Sœurs, est-ce que, une fois que les chiffres sont connus, un an plus tard, ce film-là a fait 75 millions de profits, exemple, est-ce qu'on va récupérer notre 10 millions? Un peu comme les prêts et bourses.
Ouais, ce serait une bonne
Un peu
idée.
comme, je ne sais pas, moi, un prêt, tu sais, sur l'aide sociale. Tu es sur l'aide sociale, tu attends un chèque de la CNESST ou de la SAC. On va te faire un prêt, on va te dire oui, on te donne de l'argent sur l'aide sociale, mais si tu reçois la CSST, tu t'engages à nous rembourser. Alors, on m'avait regardé comme si j'étais un extraterrestre en disant, ben non, Marc, là, on ne peut pas demander aux producteurs de cinéma de rembourser une somme d'argent. Mais j'ai dit, ben oui, on demande un bilan au bout d'un an. On regarde les chiffres, on voit le montant, c'est facile. Les entrées au cinéma, là, c'est tout codé, là.
Ouais.
On n'a pas grand, on n'a pas, y a pas de risque de fraude. On va savoir si ça a rapporté tant, puis on va demander aux producteurs de nous rembourser. On va lui donner un coup de pouce pour payer ses salaires, payer ses équipements, ses voyages, ses déplacements, ses dépenses, les décors, tout ce que tu veux. On va demander un remboursement. Ça n'a jamais été fait. Alors, le gouvernement est bon pour dépenser, mais quand vient le temps de collecter, il n'est pas là. Il est très, très mauvais collecteur, sauf à l'impôt, ou puis encore là, je te dirais qu'à l'impôt, ils ne sont pas toujours adroits dans leur manière de faire, mais il y a beaucoup d'argent qui se perd. Et c'est ça, les gouvernements, ça a toujours été la même affaire. Les fonctionnaires sont bons pour donner de l'argent, puis les élus encore plus, mais quand vient le temps de demander de l'argent, ça ne fonctionne pas. Puis Poilievre, au fédéral, candidat conservateur, a annoncé que lui, dans son gouvernement conservateur, s'il est élu, comme premier ministre du Canada, il va s'assurer d'avoir une pièce dépensée, une pièce de revenu. Ça veut dire, si le ministre de la Santé du gouvernement Poilievre décide de mettre 10 millions dans telle affaire, dans telle machine, dans tel hôpital, ou dans tel projet de recherche en médecine, s'il met 10 millions, il va falloir qu'il trouve un 10 millions de revenus pour financer ça, pour pas augmenter le déficit. Je trouve ça brillant. Ça va être un exercice difficile, mais je trouve ça brillant. Au moins, il y a une volonté de ne pas augmenter le déficit, c'est-à-dire la dette de base que le gouvernement doit supporter, qui augmente encore plus. Puis je te rappelle, Yannick, que cette année, le dernier budget de Mme Freeland au fédéral, là, la carte de crédit du fédéral, c'est 54 milliards par année. Ça veut dire, c'est quasiment la moitié du budget du Québec. Ça veut dire qu'avant même que l'année commence pour payer notre dette de base, c'est 54 milliards. C'est la première fois cette année que le service de la dette au fédéral dépasse toutes les dépenses du fédéral en santé au Canada. Alors, ça veut dire qu'on dépense plus pour payer notre carte de crédit que pour financer les soins de santé. Fait que si on payait cette dette-là d'une quelconque façon, éventuellement, qu'on la réduisait, on aurait plus d'argent pour la santé, parce que là, l'argent va pour payer notre carte de crédit. C'est un peu comme si tu avais une dépense d'épicerie chez vous de 200 piastres par semaine pour ta famille, mais que tu as 200 piastres par semaine aussi pour payer ta carte de crédit, pour les dettes accumulées, pour les voyages que tu as faits que tu n'aurais pas dû faire, puis les dépenses de ci puis de ça. Ben, si tu dépenses 200 pièces pour ta carte de crédit puis 200 pièces d'épicerie, mais ça veut dire que tu te prives de 200 pièces d'épicerie de plus parce que tu dois payer les maudits intérêts sur ta carte. Puis c'est juste les intérêts, tu n'as pas payé le capital, là. Alors,
Vous êtes en train
non,
de me faire.
ça ne s'intéresse pas bien ben, la question de la dette et on le voit dans les engagements électoraux. À part Pierre Poilievre, il n'y a pas grand monde qui parle de ça.
Maître Bellemare, vous êtes en train de me faire faire des cauchemars. Y a-t-il moyen de fermer la lumière, fermer l'entreprise pour partir ça sur un autre nom?
Ouais, comme disait Daniel Lemire, ouais, on va partir ça. Non, mais il faut commencer. Faut commencer à. D'abord, je pense qu'il faut équilibrer nos dépenses chaque année. Si ça coûte au Québec 120 milliards de dépenses, qu'on dépense 120 milliards, qu'on ait 120 milliards de revenus, cette année, M. Legault, qui est pourtant un homme d'affaires avisé, nous pète un déficit de 11 milliards. Alors, si lui, comme personne d'affaires, Legault, c'est Air Transat, c'est un gars qui a joué dans les chiffres toute sa vie, 11 milliards de déficit. On peut s'imaginer ce que ce serait qu'un autre gouvernement plus dépensier qui n'a pas vraiment la notion financière. Ça donne froid dans le dos. On est parti pour être dans le trou longtemps.
Ouais. Est-ce que vous avez regardé le débat la semaine dernière entre Kamala Harris puis Donald Trump? Est-ce que qui a gagné? Moi, j'ai l'impression que c'est Donald Trump qui a perdu, mais Kamala Harris n'a pas nécessairement gagné. Elle a juste été là, a pas répondu nécessairement bien aux questions qu'on lui posait. Elle ramenait ça tout le temps ailleurs quand c'était des questions précises. Les sous-questions étaient incapables d'y répondre. Puis de l'autre côté, Donald Trump, tu sais, au premier débat entre Joe Biden puis Donald Trump, on disait Joe Biden est rendu sénile. Là, dernier débat, on dirait que la sénilité a changé de place. On dirait que Donald Trump a eu énormément de misère, là.
Oui, mais moi, je ne le trouvais pas si pire, Trump. Je trouvais qu'il était fidèle à lui-même. C'est pas sur le body language. Le body language, il n'a pas regardé Kamala Harris 2 secondes, sauf pour lui donner la main au début. Puis c'est pas lui qui a donné la main comme elle qui a donné la main. C'est elle qui est allée à son pupitre plutôt que l'inverse. Mais moi, j'ai trouvé que, écoute, en dehors de. Le body language, c'est sûr que Harris est plus souriante, plus jolie, bien évidemment, plus bon, belle dentition, des yeux vifs. Gesticulait, elle avait, bon, sauf que c'est une politicienne traditionnelle qui bouge, puis qui explique, puis qui dit, bon, l'avortement, c'est important, puis elle a raison, puis les programmes sociaux, puis tout ça, mais moi, je trouve qu'au fond, on n'a pas appris grand-chose sur le contenu, un petit peu, mais tout ça, on le savait déjà. Mais ce qui me gosse quand Trump parle, c'est pas son attitude, c'est pas son ton, c'est pas les yeux, c'est pas la mimique, c'est pas le body language, c'est les mots des fois puis les propos. Exemple, les chiens puis les chats de Springfield. Tu sais, écoute Yann, là, tu sais, si tu t'en vas dans un débat qui est écouté par je sais pas combien de dizaines de millions de personnes, là, juste aux États-Unis puis un peu partout dans le monde, puis tu t'en vas dire qu'il y a des immigrants qui mangent des chats puis des chiens à Springfield. Si tu n'es pas sûr de ton affaire, ben vérifie, parce que faut que tu aies des cas concrets. Un cas concret. Là, il n'y a pas de cas concret, puis il s'en va avancer ça, puis J.D. Vance en a rajouté le lendemain. Dire qu'aux États-Unis, il y a des gens qui mangent des chats et des chiens, des immigrants, si c'est le cas, c'est terrible, puis il faut s'en occuper. Si ce n'est pas le cas, ben, ou si tu n'es pas sûr, parle-en pas. Là, juste ça, là. Juste ça, c'est 15 secondes dans le débat. Là, Trump vient de perdre 5 à 10 points d'un sondage. Parce que là, le monde se dit, si ce gars-là, qui veut être président des États-Unis, avance une telle insanité, une telle énormité, ben, qu'est-ce qu'il peut avancer ailleurs? S'il pense ça, comme il a déjà dit qu'avec la COVID, tu pouvais régler ça avec, je sais pas trop, de l'eau de Javel ou un gargarisme, là, je sais pas trop ce qu'il avait raconté, là, tu pouvais avaler quelque chose puis tu n'avais plus la COVID, là, quand il était président. Il était président à ce moment-là. Ça laisse croire que ce gars-là, plutôt que de se fier aux données officielles, vérifiées ou de se fier à la science, il dit n'importe quoi. Donc, c'est maître après Dieu, hein, après moi le déluge. Et ça, c'est dangereux parce qu'il est quand même à la tête d'une nation de plus de 300 millions de personnes. Et moi, je trouve que là, Trump, c'est là qu'il se discrédite. C'est dommage parce que s'il n'avait pas dit ça, il y aurait eu un bien meilleur débat. Mais juste ça fait en sorte qu'on focus là-dessus. Comprends-tu? C'est comme la mouche. Je ne sais pas si tu te souviens, Mike Pence, la dernière fois qu'il était vice-président de Trump, dans le débat avec, je pense que c'était avec Mme Harris à l'époque, il y avait une mouche sur le front. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait une mouche au débat, je pense que c'était à
Oh.
CNN. On voyait une mouche noire, puis moi, je frottais mon écran de télé. Je me disais, coudonc, y a-tu une tache? Il y avait une mouche, c'est niaiseux. Mais je te dis, c'est ça la télé, téléspectacle. Juste la mouche, là, pendant qu'il y avait une mouche sur le front, puis ça a duré quelques minutes, c'était assez long. Il n'y a personne qui écoutait ce que Mike Pence disait. Alors là, à partir du moment où il a parlé des chiens et des chats, au début du débat, Ça faisait à peu près une demi-heure que c'était commencé. Il y a beaucoup de gens qui ont décroché et qui ont dit, c'est un peu comme quand tu vas au cinéma puis tu vois un bon film pendant 2 heures de temps, puis après 15 minutes, tu vois une scène qui n'a pas d'allure. Puis là, ça te fait comme décrocher. Puis là, tu te rassois dans ton siège, puis tu dis, bon, on dirait, il m'amène en bateau, puis là, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'intérêt pour toi. Alors, c'est un peu comme ça, la question des chats puis des chiens de Springfield, que je trouve que Trump a disjoncté, puis c'est certain que ça nuit à sa performance, à sa crédibilité. Puis ça, ces images-là, puis cet extrait-là, attends-toi à le voir des centaines, des milliers de fois d'ici à l'élection du 5 novembre prochain.
Mais Bellemare, c'est donc bien excitant, la politique américaine, contrairement à la politique fédérale. Quand on regarde ça, là, on regarde au Canada, il me semble que ça a l'air plate comparativement à ce qu'on vit aux États-Unis constamment.
Bien, la fédérale, là, ça se corse, là. C'est toujours la deuxième nouvelle, tu remarqueras, là. Trudeau, dans l'Ouest canadien, la semaine dernière, avec ses députés dépités, ses ministres dépités, puis là, on voit des ministres qui restent en place. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une quantité importante de députés libéraux qui sont sur le point d'acquérir la certitude d'avoir leur pension de parlementaire, parce que ça prend tant de temps comme député pour avoir ta pension de parlementaire.
6 ans.
Il y en a, je pense, une quarantaine, je ne sais pas trop, là, qui
Ouais.
sont encore en poste pour pouvoir compléter le délai qui va leur permettre d'être pensionnés.
Ouais. Même affaire pour le
Poilievre
Bloc
l'a soulevé
québécois.
avec, avec justesse. Mais en dehors de tout ça, il y a des organisateurs politiques, il y a des chefs de cabinet, il y a des chercheurs qui quittent en masse le bateau. Ça, on ne les voit pas, on entend parler de temps en temps, mais l'équipe, la structure politique de Justin Trudeau, s'effrite tranquillement. Puis là, tout ce qui reste, c'est le Bloc québécois puis l'NPD qui sont en train de parasiter littéralement ce gouvernement parce que comme Trudeau est à moitié mort, qu'est-ce qui se passe? On le parasite. C'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qu'on peut, on le dévalise. Alors là, lui, pour se maintenir au pouvoir, il est obligé d'avoir l'appui du NPD ou du Bloc. L'NPD, je pense qu'ils ont 24 députés, le Bloc en a à peu près 33, 34. Alors, avec le NPD ou le Bloc, Trudeau a une majorité au Parlement, donc il est capable de passer ses lois, mais en même temps, le Bloc demande de l'argent. Là, il y a deux priorités pour le Bloc qui ont été annoncées. La première, c'est d'avoir des pouvoirs en immigration. Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. La deuxième, c'est d'augmenter les pensions de 10 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Actuellement, c'est 75 ans. Tout le monde est pour la vertu, puis moi, je suis pour ça que tout le monde ait de l'argent, puis tout ça, mais pas sur la carte de crédit. On n'a pas les moyens de payer ça. Alors, la job de Trudeau, c'est de dire on ne paiera pas, mais je ne serais pas étonné qu'il donne au Bloc ce qu'il veut,
Ben oui.
quitte à augmenter encore le déficit, parce que les gouvernements minoritaires en fin de mandat comme ça, qui sont obligés d'avoir l'appui d'un autre parti, ils sont parasités et ils se font têter littéralement de l'argent. Puis Trudeau n'a aucun scrupule au niveau financier. Il l'a dit en 2005 quand il a été élu, en 2015 quand il a été élu, que les déficits, ce n'était pas une mauvaise affaire. Il l'a dit que les déficits, c'est une bonne chose. Il dit qu'on investit dans l'économie. Ce n'est pas vrai. Quand tu es à déficitaire, tu n'investis pas dans l'économie quand tu payes des pensions. Tu dépenses. Ce n'est pas un investissement. Un investissement, c'est quand tu mets de l'argent dans un bloc pour qu'il profite. Ce n'est pas quand tu dépenses pour payer le gaz. Alors, Trudeau n'investit pas dans l'économie, il dépense. C'est une dépense nette. Puis, il n'y a aucune évaluation de l'impact réel que ça peut avoir en augmentant les pensions des personnes âgées. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va avoir une économie plus vigoureuse.
Mais est-ce qu'il doit quitter? À mes yeux, à moi, il doit quitter parce que nécessairement, il quitter sur une défaite, c'est jamais bon, là. Donc, de partir le soir même quand il s'aperçoit qu'il n'a pas passé aux prochaines élections, puis en démissionnant, je veux dire, ça devrait être fait là, parce qu'il est en train de nuire à son parti, là.
Bien, c'est un gouvernement illégitime qu'on a à Ottawa. Parce que Trudeau, la dernière élection, a eu moins de députés que 50 % pour diriger à la Chambre des communes. Il a fait une alliance avec le NPD pour se maintenir au pouvoir jusqu'en juin 2025. Mais ça, moi, je vois ça comme c'est antidémocratique. Je comprends que les députés ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là, en s'adjoignant le NPD, ils gouvernent avec un gouvernement de gauche, sinon d'extrême gauche, parce que le NPD. C'est vraiment la gauche solide, là. Les dépenses, puis il n'y a pas de limite, les garderies, les frais dentaires, les pensions, envoyés par là, on a de l'argent. Eux autres, ils s'en foutent, là, le NPD. Ils n'ont aucune considération pour le déficit, puis les finances publiques, aucune. Alors là, Trudeau, qui a été élu plutôt au centre-gauche, se trouve à être plutôt à gauche ou même à l'extrême-gauche sur plusieurs politiques. On n'a pas voté pour ça, là. Alors, moi, je pense qu'il y a une forme d'illégitimité de ce gouvernement-là, et ce, depuis au moins un an et demi.
Mais est-ce qu'il doit
Et
quitter?
là, il est au pouvoir encore, puis il reste là parce qu'il sait qu'il ne peut pas partir en chefferie. S'il démissionne, puis qu'il y a une course à la chefferie, le gouvernement peut être renversé n'importe quand en pleine campagne à chefferie avec un premier ministre démissionnaire. À ce moment-là, il va se ramasser avec, quoi, 75 députés au Canada plutôt que 100, 150 comme il y en a aujourd'hui. Alors, il est piégé, littéralement, Trudeau, il est piégé, mais en même temps, un peu comme quelqu'un qui est en train de se noyer, il est désespéré, puis ça ne le dérange pas d'amener avec lui trois, quatre personnes dans la mort, là, dans le destin. Il est piégé, il est mal pris, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'il y a 40-quelques% des Canadiens qui souhaitent une élection rapide, parce que les gens sont écœurés, puis ils veulent avoir de la stabilité à Ottawa, là.
Vous suivez ça encore pas pire, la politique Maître Bellemare, hein, quand on regarde ça. Moi, j'aurais peut-être un poste de disponible pour vous à la Ville de Québec, là. Il y aurait peut-être un maire à remplacer, là. Je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider à accéder à la mairie de Québec, Maître Bellemare.
Ah, moi, j'irais comme concierge.
Je travaillerais pour vous, Maître Bellemare. Je serais votre conseiller politique. Ouais.
Oui, mais je peux te renvoyer la balle parce que ça prend une jeunesse fringante comme toi, mon cher Yannick. Moi, je suis rendu à 68 ans, là. On a de la parlotte, mais on n'a pas nécessairement toute l'énergie. Mais effectivement, Churchill était député jusqu'à 90 ans. Il ne faut pas oublier ça. Puis il prenait son gros gin tous les matins.
Tout est possible, tout est possible. Maître Bellemare, on va faire une courte pause, puis on se reparle tout de suite après.
Marceau le soir. Marceau le midi.
Des histoires d'hôpitaux, là.
Ouais.
Des histoires que les infirmières au tri peuvent raconter ou les infirmiers au tri peuvent raconter.
Elle avait le stopper aussi de rentrer à l'intérieur. Ils ont rentré le stopper.
Tu dois-tu avoir autre que les batteries lâchent?
Sûrement. Mais c'est commun pour eux, là.
Commun, oui, mais toujours un peu surprenant, là. T'sais, quand on parle par texto de courge butternut d'un chirurgien qui conserve toutes les boules de billard qu'il va récupérer, il pourrait jouer au billard bientôt, là, ce qu'on nous dit au nombre de... Imagine, ça, je pense pas que c'est la même personne.
Pour ton rattrapage de Marceau le midi, rends-toi sur le BLVD.fm et l'application mobile.
Boulevard 102.1.
Le dimanche 22 septembre, c'est jour de football universitaire au Stade TELUS à Québec. Vivez les matchs du Rouge et Or comme jamais auparavant avec notre toute nouvelle terrasse VIP. Sous un chapiteau chauffé en bordure du terrain, savourez un menu à volonté avec une vue imprenable pour le match. Profitez d'une expérience premium pour vous et vos amis. Stationnement réservé, menu personnalisé et consommation incluse. Réservez dès maintenant votre place au 418-656-FOOT.
Go le match, go!
Nissan réduit le prix des modèles Ariya 100% électriques de 3 à 5 000 $. C'est donc le meilleur moment pour faire l'expérience de la traction intégrale e-Force, des sièges zéro gravité et de l'autonomie allant jusqu'à 465 km en une seule charge. Profitez-en maintenant pour recevoir le maximum des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $ pour les clients éligibles. Votre Nissan Ariya 100% électrique vous attend. Faites vite et découvrez toutes nos offres avantageuses pendant la liquidation Nissan. Les conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
C'est lequel ton plat favori chez Cora?
C'est celui à 15 $.
Ben là, t'es drôle, toi. L'omelette épinard cheddar est à 15 $. La gaufre aux bananes est à 15 $. La cassolette 10 étages est à 15 $. Le bénédictine jambon est à 15 $. Et le déjeuner surprise est aussi à 15 $.
C'est en plein ça. Celui à 15 $.
Venez savourer l'un de nos 5 plats à seulement 15 $. Jusqu'au 6 octobre, en salle à manger seulement. Moi, je déjeune chez Cora avec la promotion Nos favoris à 15 $.
Propriétaire, êtes-vous prêt pour les défis de la saison? Drain Solutions est là pour vous. Spécialiste du nettoyage et de l'inspection des drains, on protège votre maison contre les infiltrations d'eau. N'attendez pas que le pire arrive et prévenez en faisant appel à notre expertise. Tapez maintenant drainsolutions.ca.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercalo.fm.
Obtenez une thermopompe Lennox 12 000 BTU d'une valeur de 4 955 $ à 2 498 $ chez Enviro-Confort.
À juger. Prochaine offre.
Procurez-vous un chèque cadeau de 30 $ pour 18 $ chez Toscanas.
À juger à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on veut toujours le meilleur pour vous. Profitez d'un taux de financement avantageux de 1,99% jusqu'à 60 mois et d'un rabais pouvant aller jusqu'à 1 000 $ sur votre prochain Volkswagen Taos. Le moteur du petit VUS Volkswagen Taos, turbo-compressé de 1,5 litres, favorise l'économie d'essence. Avec le Taos, profitez de la traction intégrale et d'une conduite allemande qui allie plaisir, confort et sécurité. Plusieurs unités sont disponibles pour livraison rapide. Volkswagen Saint-Nicolas. Ça clique avec Saint-Nic.
Hey, c'est ta nouvelle auto?
Ah ouais? On est finalement passé à l'hybride.
Ah ouais, mais paraît que c'est compliqué à assurer.
Non, avec l'assurance Auto CA Québec, on peut protéger une voiture électrique, hybride ou à essence.
Mais faut être membre.
Non, mais en étant membre, t'économises sur ta prime puis tu fais encore plus d'économies en combinant ton assurance auto et habitation.
En combinant vos assurances auto et habitation CA Québec, économisez jusqu'à 25 % et obtenez une remise de 50 $ CA. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caaquebec.com/assurance-auto pour une soumission.
Avec le service Internet illimité de Rogers, maintenant disponible au Québec, rien n'est à votre épreuve. Comme donner accès au Wi-Fi à vos enfants et tous leurs amis, ou les trouver devant un jeu vidéo et non dehors dans la cour. Ce que vous voulez, c'est une connexion fiable et rapide en tout temps. Comme l'Internet de Rogers, maintenant disponible au Québec, à partir de $44.95 par mois pour un temps limité. Visitez rogers.com ou rendez-vous en magasin pour les détails. Rogers, là on jase.
Je reçois Traiteur, le traiteur des gens du Québec depuis plus de 30 ans. Découvrez notre gamme complète, des boîtes à lunch appétissantes au buffet gourmand, en passant par des repas à l'assiette raffinée. Retrouvez une grande variété de plats constitués d'ingrédients de la meilleure qualité dont la présentation régale les yeux. Nous offrons des menus qui font honneur à vos occasions sans compromettre votre budget. Faites confiance au savoir-faire de Je reçois, une division du groupe Je reçois, le traiteur qui fait la différence. Contactez-nous au jereçois.ca.
Lévis Subaru a en stock plusieurs Solterra 2024 électriques à traction intégrale. Le VUS électrique parfait pour nos hivers. Profitez maintenant d'un rabais de 17 000 $ incluant le rabais gouvernemental pour une durée limitée. Détails en concession. Choisissez le vôtre. LévisSubaru.com.
Saviez-vous que Yannick Marceau ne mange jamais pendant son émission, qu'Audrey Pinchot se désorganise lorsqu'elle parle d'animaux et que la lecture de chevet préférée de Jeff Fortin, c'est les rapports annuels? Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1, tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On a le plaisir d'être ce soir avec Maître Marc Bellemare, comme à tous les lundis. On a plein de sujets à jaser. Vous vouliez me parler de poèmes? Bon Dieu, c'est rare que vous me parlez de poèmes, Maître Bellemare.
Oui, c'est un poète qui a fait un, qui a mis un poème sur Facebook.
Ah, comme la neige enneigée.
Et il y a eu un congédiement suite à ça.
OK.
Et l'individu était en brouille avec son employeur. Au moment où la décision était rendue de le congédier. Et dans ce poème-là, il racontait un petit peu ses malheurs, puis il souhaitait la fin du monde à ses adversaires, puis etc. Alors, le patron qui a pris connaissance de ce poème-là, qui a été porté à sa connaissance, a décidé de le congédier en pensant, avec de bonnes raisons, que le poème était adressé à l'employeur. C'était une forme de critique déguisée, indirecte face à l'employeur. Et il y a une décision arbitrale qui a été rendue parce que, comme tu sais, quand c'est un litige entourant l'application de la convention collective, que ce soit un congédiement, un déplacement, une sanction disciplinaire, c'est à ce moment-là le Code du travail qui fait qu'on détermine, on désigne un arbitre qui rend une décision finale et sans appel et qui décide si le congédiement est justifié ou pas. L'arbitre a annulé le congédiement en disant que l'employeur n'avait pas fait la preuve de façon très, très, très certaine du fait que le poème dans lequel il blâme toute la planète de ce travailleur-là constituait une manœuvre de discrédit ou de diffamation par rapport à l'employeur. Alors, c'est comme ça que l'affaire s'est décidée. Mais ce qu'on doit retenir de ça, c'est que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu renonces à la confidentialité. Hein? C'est une chose importante à dire. Alors, c'est pour tenir ça de la décision arbitrale. si tu t'en vas sur les réseaux sociaux puis tu commences à mettre des images ou des propos qui peuvent nuire à quelqu'un, non seulement tu ne peux pas invoquer la confidentialité, le droit à au secret, mais tu dois aussi te justifier si jamais tu as nui à quelqu'un. Si c'est un employeur, si tu discrédites ton boss, tu peux être congédié ou sanctionné. Si tu discrédites ton ex, tu peux faire l'objet de poursuites en diffamation. Si tu discrédites une race ou une religion, tu peux faire l'objet de diffamation ou de plainte à la Commission des droits de la personne. Alors, il y a des gens qui pensent que parce que c'est sur les réseaux sociaux, que c'est pas une lettre dans le journal, que c'est pas la première nouvelle à Radio-Canada, que c'est pas public. Non, c'est public et tu peux avoir à subir les conséquences. Ça veut pas dire que tu vas perdre ta cause, mais tu peux être appelé à te présenter devant un décideur, un juge, éventuellement, et devoir justifier ta conduite. Alors, pensez-y bien. Les réseaux sociaux, ça a l'avantage d'être spontané et rapide. T'es fâché, t'es en colère, tu t'installes dans ton sous-sol avec ta camisole, puis tu décides de déblatérer contre quelqu'un ou quelque institution. Des fois, ça peut être le premier ministre, on le sait. Hein, la plupart des gens qui ont été encore, il n'y a pas très longtemps, le premier ministre Trudeau a eu des... Mark Miller, aussi le ministre de l'Immigration, a été l'objet de menaces sur le web. Ben c'est ça. Ça, c'est des gens en colère qui disent, à un moment donné, moi, je décide que Trudeau, là, je veux sa mort ou que je lui veux du mal d'une quelconque façon. Je menace ou je lui souhaite ci ou je lui souhaite ça. À ce moment-là, tu peux être l'objet d'accusations de nature criminelle. Et il faut faire attention de dire « Ah, j'ai pété ma coche », c'est pas vraiment une défense.
Puis d'ailleurs, vous me faites penser, la semaine dernière, Bruno Marchand, qui en a surpris plusieurs, là, parce que quand il se déplaçait avec son chauffeur habituel, parce que Bruno Marchand, il ne se promène pas en autobus, il se promène avec ce qu'on appelle une limousine, ce n'en est pas vraiment une, mais il y a un chauffeur qui agit à titre de garde du corps. Mais il y avait le GTI aussi, Maître Bellemare, le groupe d'intervention tactique de la Ville de Québec, qui suivait le maire Marchand. On a essayé de savoir pourquoi le maire était entouré d'une équipe aussi musclée. Donc, on s'imagine que probablement, il y a eu des menaces. C'est fou à quel point les menaces envers les politiciens augmentent année après année. Il semble que, là de ça, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'entendait pas parler. Ben oui, il y a eu des attentats sur certains présidents des États-Unis. Il y a eu des attentats sur des ministres, mais à plus petite échelle, peut-être. Donald Trump aussi était victime d'un attentat. C'est fou à quel point ça devient de plus en plus violent et à quel point les gens sont prêts à s'en prendre à des politiciens parce que, bon, sont plus ou moins d'accord avec leurs propos. Puis là, Bruno Marchand qui se promène avec le GTI, vous dire ben franchement que j'étais comme surpris là, la semaine passée.
Ouais, mais en même temps, Québec, c'est une grande ville. Le maire est pas très populaire dans les sondages. Moi, je pense qu'il y a un effet pandémie. Moi, on le voit dans l'attitude des gens de façon générale. Moi, je travaille avec le public depuis 1979. Je reçois des gens au bureau. Surtout au téléphone. Nous autres, on est assez protégés ici. Il n'y a pas personne qui nous insulte. Mais le ton, des fois, change. Les gens sont plus impatients. La pandémie, ça a joué un rôle et je pense qu'il y a des mots qui se disaient, il y a des choses qui se faisaient au moment de la pandémie qui ne se sont pas faites ailleurs, avant. Puis on n'a pas nécessairement corrigé ça. La question du civisme à l'école, quand tu es rendu que la CAQ jeunesse décide de s'attaquer au civisme à l'école, ils ont tout à fait raison. Un flot de 8 ans qui s'en va dire « tu » à sa professeure de 58 ans, moi, je trouve que c'est inacceptable. Est-ce que les parents ne font pas leur job? Est-ce que les jeunes sont mal formés? Il y a un problème. Il y a un problème d'éthique. Il y a un problème de comportement. Et c'est sûr que les élus en mangent toute une. Puis là, l'inflation, le coût de la vie, les gens sont à côté, ça coûte cher, la crise du logement, financièrement, ça ne va pas bien. Et je pense que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles les élus sont si mal considérés. C'est sûr qu'ils ne s'occupent pas de la question financière à mon goût, mais en même temps, ce n'est pas une raison pour menacer de mort. Mais moi, que Marchand ait une escorte ou une protection dans ses déplacements, je trouve que c'est... Personnellement, je trouve que c'est justifié. Il n'y a pas juste la question de la protection, il y a la question du fait que, écoute, maire de Québec, là, il est au téléphone tout le temps, il est sur son téléphone cellulaire tout le temps, il communique avec quantité de personnes, des dirigeants d'organismes, des citoyens, des élus, son parti, les employés, le directeur général de la ville. Lui, quand il est en déplacement, là, il ne regarde pas dehors, là. Il communique. Et il ne peut pas faire ça s'il se déplace tout seul dans son auto. Fait que ça prend, je pense, une voiture de fonction. Je ne te dis pas que c'est requis nécessairement à l'ancienne Lorette puis à Saint-Augustin, mais Québec, Montréal, les grandes capitales régionales, là, Trois-Rivières, Sherbrooke, moi, je pense que c'est pas... tant au niveau de la sécurité des déplacements qu'au niveau de sa protection, dans le contexte actuel, je trouve que c'est pas exagéré d'avoir quelqu'un qui s'en occupe.
Avec Maître Marc Bellemare, on parle des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST. Il y a souvent des questions qui nous sont posées le soir, comme à chaque lundi. Quoi faire, advenant le cas où on a un impact, donc on a une collision avec un animal sur la route? Ça peut être un chevreuil, ça peut être, je ne sais pas moi, une marmotte. Y a-t-il quelque chose qui est inscrit dans le livre des règlements? T'sais, qu'est-ce qui se passe si je frappe une marmotte versus un chevreuil qui est pas mal plus gros? Que dois-je faire? Est-ce que je communique avec le 911? Y a-t-il des choses que je dois faire avec le chevreuil qui est en train de souffrir? Ou, tu sais, est-ce que, là, je vais être un peu cruel, mais est-ce que je mets fin à ses souffrances ou j'appelle quelqu'un, puis dans trois heures plus tard, il va venir mettre fin à ses souffrances? Ça fonctionne comment, maintenant?
Oui. Alors, il y a quelque chose dans le cas de la sécurité routière là-dessus. Tu es obligé, si tu frappes un animal qui pèse plus de 25 kilos, on s'entend, c'est 55 livres, tu dois déclarer l'affaire au service policier. Bon, alors c'est sûr que tu n'as pas une balance dans ton char pour voir si c'est 54 livres ou pas, mais on s'entend que si tu frappes un écureuil, tu n'es pas obligé de le rapporter. Si tu frappes un oiseau, non plus. Mais si tu frappes une bête, un chevreuil, un orignal, un dindon, il y a toute une liste dans le code. Tu dois rapporter à la police spontanément l'incident. Et si tu ne le fais pas, tu peux avoir une amende qui peut aller jusqu'à 300$ puis perdre 9 points d'aptitude. C'est sérieux. C'est un peu comme dépasser un autobus qui est immobilisé.
Je fesse un chevreuil, je le déclare pas, c'est 9 points d'inaptitude que j'accumule à mon permis si je me fais prendre par la police plus tard.
Exactement, exactement. Oh. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu peux... Il peut y avoir un troupeau, il peut y avoir une ligne, il peut y avoir d'autres orignaux qui se promènent dans le secteur. Il faut que la police soit avisée pour pouvoir peut-être protéger d'autres personnes. Moi, j'ai un client, à un moment donné, qui a frappé en automobile un orignal à Saint-Louis-de-France en arrivant à Trois-Rivières. Il a frappé l'orignal durement et il a avisé la police. Il a été blessé, bien sûr, dans l'événement. Et il y avait d'autres orignaux dans le secteur. Fait que la Sûreté du Québec a mis des policiers un peu partout pour s'assurer que les gens soient avisés, que la vitesse soit réduite, parce qu'il y a d'autres bêtes, il y en a une, mais souvent, ils ne sont pas tout seuls. Des fois, il peut y avoir des enfants orignaux qui se promènent aussi dans le même secteur. Si tu as tué une mère et les enfants sont désemparés, ils peuvent se retrouver dans le bois un peu partout pour sortir n'importe quand et causer d'autres accidents. Alors, il y a effectivement une mesure de 300$ d'amende possible avec une possibilité de perdre 9 points d'émérite. Maintenant, si tu frappes un animal sauvage, là, j'entends pas juste un orignal, ça peut être un chevreuil, ça peut être un dindon, ça peut être un lynx, ça peut être un renard. À ce moment-là, tu dois communiquer avec un agent de la protection de la faune si l'animal fait partie de ce qu'on appelle la liste des animaux à déclaration obligatoire. Parce que tu es obligé de dénoncer si tu vois un animal de ce type-là. Et là, il y a toute une liste qui est annotée dans la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, sur le règlement. Alors, tu dois aviser, ça peut être un carcajou, un caribou, un loup, un ours blanc, un renard, un dindon sauvage. Tu dois à ce moment-là aviser le service de la faune. C'est par le 911 qu'on fait ça. Mais c'est pas vrai que tu frappes un orignal ou un renard... certaines dimensions, puis que tu t'en vas chez vous, puis que tu ne bouges pas, là. Et aussi, tu dois avoir, en vertu du Code de la sécurité routière, tu dois porter secours aux personnes qui pourraient avoir subi un dommage ou être en détresse à cause de l'événement. Ça veut dire, je ne sais pas, moi, tu tues un chien d'une bonne dimension ou une vache ou un cheval ou quoi que ce soit, ben tu peux avoir quelqu'un qui est en choc nerveux, puis à ce moment-là, tu dois lui porter secours, même s'il n'y a pas de blessure physique.
OK. Là, parce qu'on a parlé de la taille de la bête qui va faire en sorte que je dois le déclarer obligatoirement, mais advenant le cas où je rentre, je sais pas, dans une bête qui a moins de... Mettons qu'une bête de 25 livres, mais qui magane quand même ma voiture. Je dois quand même voir la police pour avoir un numéro d'intervention parce que les assureurs vont me dire « Ouais, mais là, qui me dit que tu t'es vraiment fait? »
C'est vrai.
T'sais, fait que je dois quand même appeler la police, là.
Ben, si tu veux avoir un constat de l'événement, pour pouvoir justifier ça auprès de tes assurances, effectivement, tu dois aviser la police, mais tu n'es pas obligé de le faire en vertu du code de la sécurité routière ou du règlement sur la faune. Si l'animal est inférieur à 25 kilos et si c'est pas un animal d'exception. Si c'est un chien de 10 kilos, tu n'es pas obligé de le rapporter à personne. Mais tu as raison, sur la question de la preuve de l'événement, s'il y a un bris sur le véhicule, à ce moment-là, ça peut causer problème. Je peux te dire aussi que c'est une question que la Société de l'assurance automobile va soulever si jamais tu fais une réclamation pour un événement qui t'a blessé. En d'autres termes, tu as voulu éviter la bête ou tu l'as frappé, puis après l'avoir frappé, tu as perdu le contrôle, puis là, tu t'es fait une entorse cervicale puis une hernie discale ou une fracture d'un pied ou je ne sais pas quoi dans l'événement, dans le capotage. Si tu veux prouver qu'il y a eu un accident, il faut que tu sois capable de rapporter des circonstances. Alors ça se fait à l'hôpital quand l'ambulance vient te chercher, puis ça se fait avec la police aussi. Parce que si tu as l'intention de réclamer à l'assureur, attends-toi à ce qu'il pose des questions. Comment c'est arrivé? Où est-ce que c'est arrivé? La perte de contrôle, c'est comment? Parce que des fois, tu peux avoir voulu simplement éviter un animal sans le frapper, puis perdre de contrôle. Et à ce moment-là, tu dois prouver que c'est un accident de la route et qu'effectivement, c'est dans le cadre de ton véhicule que tu t'es blessé. Alors, tu as tout intérêt à viser la police, à mon avis, dans ce contexte-là, surtout si ça survient dans un milieu urbain. C'est sûr que si ça survient dans le parc de Chibougamo ou dans le parc de la Vérandrie où il n'y a personne autour à 25 km environnant, ça devient plus difficile. Mais si ça arrive à Stoneham ou que ça arrive dans Bellechasse, à ce moment-là, il y a des ressources policières et tu n'as aucune raison de ne pas le rapporter.
Autre dossier, la semaine dernière, je regardais, on parlait d'une possible grève chez Air Canada et il y a de fortes chances que s'il y a une grève, bien entendu, qu'il y a des vols qui pourraient être annulés. On dit que certains avions pourraient être cloués au sol entre le 15 et le 23 septembre. C'est quoi les options qui nous restent quand nos vols sont annulés, Maître Bellemare?
Bien, la première option, c'est que tu peux demander un remboursement intégral de ce que tu as payé. Parce que Air Canada t'a vendu un billet avec la garantie que tu serais transporté. Alors, la première des choses, c'est d'être remboursé pour ça. Mm-hmm. Tu peux aussi. La compagnie Air Canada a déjà annoncé qu'elle avait l'intention de rembourser intégralement les gens qui le souhaitaient. L'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu fais avec les chambres d'hôtel que tu as réservées et qui vont peut-être être payées parce que la chambre l'hôtel, le Marriott ou le Hilton, à Chicago ou à Paris, il s'en sac, lui, de la grève. Là, il t'a réservé, il faut que tu payes. Puis des fois, c'est payé d'avance, ta carte de crédit est là. C'est pas nécessairement un motif d'annulation. Alors, à ce moment-là, t'as un recours valable contre Air Canada pour leur demander le remboursement. Puis s'ils ne payent pas, tu t'en vas aux petites créances. Puis tu demandes le remboursement des frais qui ne sont pas des frais d'avion, mais qui sont des frais directement reliés à l'annulation des vols à cause qu'Air Canada n'est pas capable de livrer le produit qui s'est engagé à livrer. Donc, tu as un excellent recours de ce côté-là. Tu peux aussi demander de modifier la date de ton vol. Ils peuvent te donner un crédit pour un vol ultérieur. Mais moi, ce que je recommande à tout le monde, si jamais vous avez ce genre de situation-là, que ce soit Air Canada ou une autre compagnie, parce que Transat, l'année passée, a vécu le même problème, où il y avait un risque de grève qui s'est finalement réglé, mais ça, c'est une source d'anxiété et d'insécurité importante pour les consommateurs. Des crédits voyage, là, moi, je pense que c'est pas une bonne idée de prendre ça parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas repartir. Puis là, c'est Air Canada qui garde ça dans ses fichiers. Ils peuvent faire des erreurs. Il peut y avoir des délais maximum où tu peux te servir de ton crédit voyage. Puis si tu as dépensé 1000, 2000, 3000 piastres pour des billets d'avion, récupère ton cash. Puis tu feras bien ce que tu voudras après. Laisse pas ça dans les coffres d'Air Canada au cas où tu feras un voyage éventuellement. N'importe quoi peut arriver. Puis conserve ton argent et je pense que c'est la meilleure solution dans les circonstances.
OK. Donc, en espérant que qu'il n'y en ait pas de grève, mais finalement, il y a des grosses chances, hein, on va se le dire. Donc, on est dedans en plus.
Mais je peux te dire qu'Air Canada n'a pas besoin d'une grève pour annuler des vols, pour
donner
des services. Là, parce que moi, j'ai, J'ai un vol prochainement là, avec Air Canada que je n'ai pas eu le choix de prendre parce que je ne fais jamais affaire avec Air Canada à cause de leur non-respect du français et à cause de la qualité du service qui laisse à désirer bien souvent des vols annulés pour toutes sortes de raisons. Mais il y a des fois que tu n'as pas le choix.
Ouais.
Tu regardes les vols disponibles, puis il y a des fois que c'est juste Air Canada. Mais là, avec toutes les menaces de grève, puis même si la grève était réglée ou que les menaces de grève étaient écartées, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un certain chambardement dans les horaires aussi, parce que il y a peut-être des pilotes qui sont moins disponibles, il y en a peut-être d'autres qui vont babouner puis qui se présenteront pas. Alors, il peut arriver n'importe quoi dans un contexte de grève comme ça, même si le conflit est officiellement réglé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un certain chaos dans le processus de réservation puis de confirmation de vol.
Maître Marc Bell.